Frères et sœurs, Christ, bonjour, soyez les bienvenus et que le Seigneur soit encore béni cet après-midi par nos louanges, par nos prières et par la méditation de sa parole. Aujourd'hui, nous avons relaté donc, par la lecture de Genèse chapitre 11, cet épisode de Babel, ce que j'ai appelé Babel, la tour de la honte. Je ne sais pas si c'était le terme le plus adapté, mais ça permet au moins de réfléchir sur qu'est-ce qui s'est donc bien passé à Babel, cette fameuse tour. Cet épisode de la tour de Babel fait suite à un événement majeur survenu quelque temps avant. C'était celui-ci. Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais, vous avez remarqué qu'il y a souvent un « mais » dans la Bible, « mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Mais il y a quand même quelqu'un dont le Seigneur s'est servi pour continuer son œuvre, parce qu'il avait vraiment le Seigneur à cœur, cette création, cette créature si merveilleuse qu'il voulait créer. Donc Dieu décide de repartir à nouveau avec un groupe d'hommes et de femmes choisis, qui connaissaient Dieu, qui respectaient Dieu, et ayant trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et là donc, on voit ce peuple, parce que bien sûr ils se sont multipliés. On les retrouve unis pour faire quelque chose ensemble. Donc c'est bien de construire quelque chose ensemble. L'idée de base est noble. Donc il n'y a pas de honte là-dedans. Mais on s'interroge quand même sur leur motivation. Parce que, certes, ils décident de construire quelque chose pour travailler ensemble, parce qu'ils se dirent les uns aux autres, donc ils ont conversé, ils ont échangé, ils ont sûrement fait des plans, donc voilà, de quoi nous avons besoin. Il n'y avait pas de pierre, donc ils ont fabriqué des briques, et puis ils ont utilisé le bitume pour coller le tout. Mais il y a un verset qui doit attirer notre attention. Suite à cela, ils se dirent, alors, pourquoi ? Pour se motiver, pour se donner une raison. Allons, bâtissons-nous une ville, mais surtout, et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom. Tiens, ce peuple, soudain, se sent uni, très bien, mais aussi cherche un besoin de reconnaissance, se faire un nom. Et ils ajoutent ceci, alors la deuxième partie de la phrase, ça fait un peu sourire quand on connaît la fin de l'histoire, « afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Alors, afin qu'on ait un endroit peut-être pour se protéger, que nous soyons là tous unis, et puis leur crainte, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils auraient été dispersés. Mais pas par notre peuple, par Dieu lui-même. Il voulait cette tour pour atteindre le ciel, pour toucher le ciel. L'histoire de la tour décrit ce désir humain de pénétrer les cieux, d'aller voir là-haut ce qui se passe. En somme, de remplacer Dieu. Et là, si on est dans Genèse, donc on a vu qu'avant il y avait le déluge, Mais avant, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Ben, c'est la réédition du récit du paradis où l'homme et la femme voulaient aussi devenir comme Dieu. Et il est remarquable que dans la description du projet humain, dans ce projet-là, il n'y ait nullement référence à Dieu. Travaillons ensemble, certes, construisons une ville, certes, en son centre, faisons une tour, faisons-nous un nom. Dieu n'est pas dans le projet. Mais comme on en trouve partout dans le monde, pour montrer ce que l'homme est capable de faire, moi je suis capable de construire ça. Mais aussi, on s'aperçoit que certains grands projets, entre guillemets, aboutissent à la confusion et malheureusement à la dispersion. Tout le monde sait aussi comment la différence de langage et de culture cause bien des frictions et des guerres. Même des fois, quand on parle la même langue, hein, on peut être compris d'une manière différente, selon comment on l'analyse. Et au niveau de l'écrit, c'est encore pire. Les interprétations que l'on donne par les écrits font parfois peur. On pense donner sa pensée, puis en fait, celui qui est en face ne la reçoit pas du tout comme cela. Phénomène humain de culture différente, hein, et à la fois, un côté positif, mais aussi parfois un côté négatif. S'unir pour faire la guerre à un autre, par exemple. Alors, juste une petite aparté, selon les traditions judéo-chrétiennes, c'est Nemrod, régnant sur les descendants de Noé, qui eut l'idée de construire à Babel, Babylone, Bagdad. Une tour assez haute pour que son sommet atteigne le ciel. Donc là, il est dit qu'il parlait un même langage, donc il n'y avait pas besoin de traduire, il n'y avait pas besoin d'apprendre un autre langage, donc les échanges étaient directs. Et on voit que pour contrecarrer leur projet que Dieu jugeait plein d'orgueil, mal placé, ce n'était pas une bonne construction en fait, parce que enfin, ce n'était pas la pierre qui était responsable, qui était coupable, c'est l'idée de l'homme qui était derrière. Donc Dieu descendit à y voir et s'est dit mais qu'est-ce qui va leur empêcher après de faire n'importe quoi parce qu'ils vont se prendre pour Dieu? Que serait-il capable de faire après? Et le Seigneur confondit les langages et dispersa. Du coup, comme ils ne pouvaient plus communiquer, ils se sont séparés et le projet de cette construction de tour a été arrêté. L'enseignement moral, entre autres, que l'on peut dégager sur ce récit, c'est ça illustre les dangers que l'homme a à vouloir se placer à la place de Dieu ou à vouloir agir sans Dieu, cherchant à le défier par sa propre recherche de connaissance. Si j'en sais suffisamment, qu'est-ce qui m'empêche d'être considéré comme Dieu, comme un Dieu? On voit aussi l'enseignement, on voit aussi la nécessité qu'a l'humanité de se parler, les échanges pour partager les savoirs, de se comprendre, bien sûr, pour réaliser des projets, petits et grands projets, et ainsi que le risque de voir échouer ces projets quand chaque groupe de spécialistes se met à parler seul, dans son seul jargon de discipline, de sa discipline. Dans mon métier, j'ai toujours fait attention, lorsque j'avais un interlocuteur devant moi, d'expliquer les termes techniques ou de les illustrer pour être sûr qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension. Bon, j'y arrive pas à 100%, hein, parce que des incompréhensions, il en persiste. Mais d'essayer d'être le plus clair possible. Et puis ce récit aussi peut être aussi vu comme métaphore du malentendu humain. Parce que contrairement aux animaux, les êtres humains ne se comprennent pas par des signes univoques, mais par des moyens sans équivoque. On a les moyens de communiquer d'une façon claire. Bien sûr, si à l'heure actuelle j'utilisais un autre langage, je pense que vous ne comprendriez pas ce que j'ai à vous raconter, j'ai à vous dire. Mais là, on se comprend tous. Babel, c'est à la fois une tour et une ville, une entreprise collective pour se faire un nom, pour montrer aux autres qu'on existe, qu'on est capable de faire. Et au sommet de cette tour, il y avait un temple. Et la particularité, c'est que au sommet, il y avait un lit et une femme qui attend. Statue, hein, bien sûr. Hein. En tout cas, c'est ce que les archéologues ont découvert. C'est une invitation, hein, cette femme qui attend un visiteur, semble-t-il. C'est une invitation adressée à Dieu pour venir visiter les hommes. Mais je pense qu'il y a une autre connotation aussi derrière. Hein. Simplement, l'homme, là, quand il est monté en haut de cette tour, il est pris d'un vertige. Enfin, moi, j'ai le vertige, personnellement. Quand je dois grimper sur une échelle, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs kilomètres sous mes pieds. Et je suis un peu déstabilisé. Mais je suis admiratif devant ceux qui n'ont pas le vertige. Mais bon, chacun son truc. Quelles sont les origines possibles? C'est intéressant de voir un petit peu cette tour de Babel, qu'est-ce que c'était en fait? Donc l'origine, bien sûr, se trouve en Mésopotamie voisine, mais les modalités d'élaboration d'une tour comme celle de Babel ne sont pas très bien définies, puisque on a travaillé que sur des sites archéologiques. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est les proportions. À l'époque, imaginez, hein, à l'époque, il n'y avait pas de grue, il n'y avait pas de marteau-piqueur, de trucs comme ça pour tailler, pour découper. Alors la base de la tour, ce qu'on appelait la ziggoura, elle avait 90 mètres de côté. Donc, imaginez, c'est pas mal. Essayez de voir 90 mètres ce que ça fait. Moi, je dis que c'est impressionnant. 90 mètres de côté et à peu près une hauteur équivalente. Ce qui fait environ 7 étages. Bien sûr, ce n'est pas l'Empire State Building ni les tours qu'on est en train de construire, mais pour l'époque, on devait voir ça de très très loin. Et ça a inspiré le respect, ces monuments costauds. Et puis il était savamment décoré avec les briques qui avaient été émaillées, hein, pour lui donner du cachet, pas simplement de la brique, du bitume, et puis voilà. Sept étages, hein, parce que le chiffre 7 avait une valeur symbolique en Mésopotamie aussi. Chiffre 7. Donc nous parlions de cet homme qui, arrivé en haut de la tour, contemple la plaine, la vallée, voit, je pense, sur plusieurs kilomètres, et avec cette sensation de puissance, je gravis en haut de cette tour, oui, cette sensation de puissance, de victoire, de force, être capable de bâtir une telle tour. Allez, je vous invite à descendre de la tour maintenant, on va descendre cet étage plus bas. Donc après le déluge, après que l'humanité, bien qu'avertie, n'a pas voulu obéir à Dieu, après la destruction quasi totale de l'humanité, il n'y reste uniquement qu'une famille, les survivants choisis et élus de Dieu retrouvent une sérénité et une paix sous le regard bienveillant du Seigneur. C'est reparti, on a effacé et on repart, on va dire, sur de nouvelles bases. Et là, qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête ? Là, on l'a vu tout à l'heure. Est-ce qu'ils ont cherché à vivre en paix ? Je pense, certainement. Est-ce qu'ils ont cherché à avoir une relation privilégiée avec un Dieu créateur très proche ? Apparemment, non. Sinon, leur motivation aurait été différente. Ils auraient construit un temple, peut-être, à la gloire de l'Éternel, mais pas quelque chose pour se faire un nom, pour être reconnu. Est-ce qu'ils ont cherché le défi ? Pas forcément directement avec Dieu, mais quelque part, il y avait un défi. Faisons-nous un nom. C'est significatif. D'une recherche de pouvoir. Et puis, il y a aussi un épisode un peu plus loin. Vous savez, quand Dieu délivre le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, quand Dieu leur accorde cette liberté, après des centaines d'années d'esclavage, à quoi ce peuple songe-t-il ? Est-ce que ce peuple songe à louer Dieu ? Souvenez-vous de cet épisode. Pendant que Moïse escalade la montagne, le peuple en bas attend. Les jours passent. C'est le même peuple. Ils parlent la même langue. Ils savent d'où ils viennent. Ils étaient prisonniers, esclaves. Les voilà libres. Mais petit à petit, cela ne leur suffit plus. Alors, ils vont récolter tous les bijoux, ils vont les fondre pour se faire un veau d'or. Le même que ceux qu'ils avaient quittés quand ils étaient en Égypte, ils ont dû en voir un peu partout. Afin de se prosterner devant, ils avaient besoin de quelque chose de matériel. Parce que c'est plus rassurant. Ils n'ont pas passé leur temps à veiller, à tour de rôle. Ils n'ont pas passé leur temps à faire autre chose. Ils avaient simplement à attendre que Moïse redescende. Mais c'était plus fort qu'eux. Il fallait qu'ils construisent quelque chose, comme pour la tour de Babel. Construisons un veau d'or. Ayons quelque chose que l'on peut toucher. Peut-être que Dieu, on va le retrouver dedans, comme dans cette tour. Mais Dieu n'était pas dans cette tour. Et puis ainsi de suite, d'autres épisodes comme cela. L'humanité n'a-t-elle pas cherché depuis à se faire un nom, depuis cet épisode de la tour de Babel? Il y a eu la course à l'espace, le premier qui irait le plus haut, celui qui se poserait sur la lune. Voilà, c'était la motivation. On a dépensé des milliards pour aller sur la lune. On dépense des milliards pour maintenant voir si on ne peut pas aller faire un tour sur Mars. Et puis pourquoi pas ailleurs ? Et qui sera le premier surtout ? Est-ce que ça sera les Chinois, les Américains, les Russes, les Européens ? Ou je ne sais pas quel autre peuple qui d'ici là fera son avance technologique ? Pourquoi ? Dans quel but ? La course aux armements aussi, celui qui aurait l'arme la plus forte, la plus destructrice, la plus puissante. Puis d'autres armes, des plus subtiles, des armes informatiques aussi maintenant. La course à la richesse, le plus riche, pour être le plus reconnu, pour se dire le plus puissant, parce que je peux tout acheter. et puis construire des grandes villes. Là, il y a la course aux immeubles les plus hauts. Où va-t-on s'arrêter ? Quand le Seigneur va faire souffler un petit vent là-dessus, je ne pense pas que ça va résister. Et en parlant de ça, je me souviens, il n'y a pas tellement longtemps, parce que j'aime beaucoup ce film, j'ai regardé Titanic, et je me souviens encore de cette phrase, « Voyez, même Dieu ne pouvait pas le couler !» Eh bien, première sortie, tout le monde à l'eau. Conséquence, 1500 morts. Voilà, le défi lancé à Dieu. Quand Dieu répond, c'est pas bon. Ça fait mal. Babel, enfin, symbole de recherche, c'est le symbole de la recherche du pouvoir, la suprématie. Montrer à l'autre que on est plus haut, on est plus fort, on peut défier Dieu. On veut dominer, vouloir se faire un nom, être reconnu, afficher sa puissance, afficher son intelligence. Le Seigneur n'en a que faire de cela. Ça ne l'intéresse pas. Dieu, ça ne l'intéresse pas la tour la plus haute. Dieu, ça ne l'intéresse pas qui va aller construire une ville sur Mars. Ça ne l'intéresse pas du tout. La seule chose que Dieu cherche, c'est que le cœur de l'homme se tourne vers lui. Le reconnaît comme maître, Seigneur et souverain. Et puis, même si on n'est pas le plus intelligent, même si on n'est pas le plus riche, même si on n'est pas celui qui a participé à la construction de la plus grande tour ou du plus gros bateau, oui, je ne sais quoi, je pourrais vous donner d'autres exemples, mais ça ne sert à rien. Eh bien, le Seigneur, il m'accepte tel que je suis. Je n'ai pas besoin de faire des exploits devant lui. Aucun. Je n'ai pas besoin de montrer, « Seigneur, tu vois, regarde ce que j'ai fait. Est-ce que tu es fier de moi ?» Le Seigneur dit, « Ben, qu'est-ce que peut dire le Seigneur ? Ça ne m'intéresse pas. C'est ton cœur qui m'intéresse. » J'aimerais que l'on puisse méditer ces paroles, ces quelques versets, et au-delà de cet exemple sur la tour de Babel, ouais, la tour de la honte quelque part. C'est dommage que ce peuple élu, sauvé par Dieu, qui a eu l'immense privilège d'être dans l'arche, parce que tous les autres ont disparu, n'aient pas saisi cette chance de savoir que Dieu les avait privilégiés, comme Adam et Ève n'ont pas su conserver, voilà le mot que je cherchais, conserver ce lien précieux avec Dieu. Non, il fallait toujours autre chose. Voilà. Que le Seigneur nous conduise dans sa parole, dans la réflexion, dans la méditation, et que nous puissions vraiment avoir à cœur de comprendre sa parole, de savoir ce que le Seigneur veut nous enseigner au travers de ces récits comme cela. Amen.